88.4 Radio Galère.
Bienvenue sur Radio Galère 88.4. Vous êtes sur l'émission Kixa et aujourd'hui nous accueillons l'artiste Rodine. Salut.
Salut, salut tout le monde. Salut Rodine, tu vas bien?
Ouais.
Alors, je suis très contente que tu aies accepté de venir dans cette émission et pour pouvoir se plonger un peu dans et beaucoup même dans tes textes. Moi, tu fais du rap. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est plus fusion que ce qu'on croit?
C'est une grande question. C'est que il y a 10 ans, je t'aurais dit. Ouais, je sais pas ce que j'aurais dit il y a 10 ans, tu vois. Le truc, c'est que, effectivement, comment dire, c'est un genre qui s'est vachement ouvert aussi. Mmh. Et les artistes sont devenus plus éclectiques aussi. Et je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, je fais du rap, mais pas que. Ça reste quand même la pierre fondatrice et un peu la porte d'entrée, même si au final je fais des morceaux qui sont dans d'autres styles, la manière d'aborder l'écriture par exemple et la production viennent de là, donc on peut dire que oui.
On a le droit, c'est légal. Ouais. J'aimerais bien que on puisse d'abord te découvrir par un des morceaux par lequel tu voudrais qu'on commence à écouter.
Écoute, si on veut rester raccord avec ce qu'on vient de dire, on peut commencer soit par MRS, soit par Nine.
Eh ben, c'est parti pour MRS, peut-être. Tu es d'accord, Ludivine, avec elle?
Justement, est-ce que tu peux regarder sur l'ordinateur? Alors, qu'il y a devant toi?
Il n'est pas allumé. Rien ne va plus. Ah, je sens plus.
Mais Nina, je l'ai.
On réglera les problèmes techniques pendant la chanson.
Exactement, tu viendras voir pour voir si on a le morceau. Bonne écoute. C'est donc Nina de Rodine. C'est comme ça que c'est Nina.
Nina, comment on dit Nina ici, quoi?
Ok.
Voglio dirti già cosa gli da vivere da signora del mal e presa fuori gli un mezzo un ferito animal e vi smesso cose dure son giusto un allot non voglio essere adulti ma te già un son Nina ya tante cose Nina che noi poco dirta Sentilde, dirte, se cose scagliate, son malapesa, ira, bacio e putade, non sabia chi era, se che non va a stimare, la pigio vai vora, chi son mancara non ten gente là. Sempre per tutto volontari, io il me pensava fortro, ero solitari, chi porta il mio cor, l'infanta abusata sfa un adulto tormentato. Parla del passato però mai senza mentire. Poi questa vita gli ottanta già mi immaginavam tu. Oggi che bavo mi tan non ho deo vinti. Nina ya tante cose Nina
Alors, j'ai plein de questions. Déjà, je veux savoir pour qui tu as écrit cette chanson.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai accepté?
On parle de tes textes.
Oui. J'ai écrit cette chanson pour mon ex, mais en même temps, ça reste une chanson. Donc c'est aussi quelque chose de à la cantonade, on va dire. Et je sais plus exactement comment c'est arrivé, mais ça raconte un peu à la fois les dernières fois où on s'est vu, et puis aussi je sais pas, en fait c'est lié à une envie que j'ai eu globalement, on va dire, par rapport au disque sur lequel je travaille encore, enfin qui sort, on va dire, petit à petit depuis le mois d'octobre de l'année dernière. J'avais envie d'écrire des choses plus concrètes, plus personnelles aussi, parce que mon premier album était très poétique et volontairement hermétique un peu, tu vois, enfin c'était ça, enfin je parlais de moi mais avec quatre couches de
pudeur et de poésie,
voilà, tu vois, et là j'avais envie de garder quand même cette poésie mais de dire des choses plus concrètes à la fois pour moi et puis pour voilà, le truc, c'est que comme j'écris en occitan, ça soulève toujours, à chaque fois que je j'avance un pion, que je réfléchis à quelque chose, ou que je veux prendre une décision, il y a plein de paramètres qui entrent en compte, auxquels on penserait pas forcément, enfin, auxquels je penserais pas forcément si j'écrivais en français, par exemple.
Ah oui?
Mais à chaque fois que je vais, par exemple, là, voilà, écrire des choses qui vont relever de ma vie personnelle, de parler de traumatismes ou de choses comme ça, c'est tout à fait normal pour n'importe qui, on va dire. Mais quand tu t'exprimes dans une langue minorisée, il y a de fortes chances que ce que tu fasses à ce moment-là, personne d'autre l'ait fait avant toi ou personne d'autre ne le fasse. Et parce que ben, les pratiques de ces langues, ce qu'on en fait, on va dire, y compris dans les pratiques artistiques, c'est quand même beaucoup déterminé par la situation sociologique de la langue.
Et oui, bien sûr.
Et du coup, voilà, moi j'avais envie, pour ce disque-là, d'aller plus loin dans les choses personnelles et aussi d'investir un champ de la vie et de la musique qui était, je trouvais, pas du tout ou très peu investi par l'occitan, à savoir les chansons plus sensuelles.
Ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'a parlé à l'écoute des chansons que tu m'as envoyées. Ça m'a sauté aux yeux le côté, il y a une très grande sensualité dans tes écrits, dans tes textes, et qui pour moi c'était assez impressionnant parce que dans mon référentiel personnel, là où je vais associer la sensualité en musique, ça, moi je viens du jazz en fait, et du coup en tant que spectatrice, hein, je suis pas musicienne, et donc du coup je m'attends à entendre de la sensualité dans la technique vocale, surtout que dans le jazz américain notamment, les Anglais sont moins comment dire, dans la poésie littéraire que nous. Par contre, dans la technique vocale, il y a beaucoup de sensualité. Et toi, il y a vraiment un truc de, quand on t'écoute sans comprendre la langue, on se dit ok, c'est du rap, il y a un truc qui est du rap, mais c'est quand même du rap moderne, comme on disait, c'est très diversifié. Et en lisant tes textes, je me dis non, en fait il y a beaucoup beaucoup de sensualité dedans. C'était une très belle surprise.
Ben ouais, c'est un peu le paradoxe, tu vois, de la langue occitane, elle a toujours ce truc là enfin, quels que soient, on va dire, les partis pris des personnes qui soient plutôt liées au provençal en tant que provençal ou à l'occitan de manière plus large, il y a ce bagage de dire on a quand même une grande littérature. Ça fait 1000 ans que des gens écrivent dans cette langue. On a Mistral qui a eu un prix Nobel de littérature. L'amour fait partie, on va dire, de notre bagage culturel. Ouais. Mais paradoxalement, on arrive comme ça au XXe siècle avec une musique qui en parle très peu.
Oui, et puis c'est très vrai ce que tu dis. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu beaucoup d'amis qui étaient nés en région parisienne. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a immédiatement frappé dans leur façon de entre guillemets gérer leur culture régionale, parce que là-bas c'est carrément il y a un tabou aussi chez eux de considérer la région parisienne comme une culture régionale.
Oui.
Et en fait c'est en voyant la façon dont ils parlaient de leur territoire que j'ai réalisé qu'ici il y avait effectivement un grand amour dans la culture des Provençaux, des Occitans vis-à-vis de leur terre et vis-à-vis de la mer. Il y a aussi un rapport à la fois très amoureux, très sensuel avec la mer, et puis très comment dire, moi j'ai souvent dit, nous les Méditerranéens, on range nos morts dans la mer, et à la fois parce que historiquement c'est vrai, je veux dire le sol de la Méditerranée est jonché par des cadavres d'esclaves, mais il y a aussi un truc de c'est aussi par là que bon, on parle aux gens qu'on a perdus, je trouve. Et d'ailleurs ça fait une parfaite transition par rapport à un des punchlines que j'ai adoré dans ce texte là je vais essayer de le dire correctement, mais bon, je parle pas provençal. C'est Sabidir la mort, mais pas le nom des mortes. Je sais dire l'amour, mais pas le nom des morts.
Ouais.
Et j'aimerais beaucoup que tu me dises pourquoi, enfin, qu'est-ce que cette
alors après tout n'est pas forcément explicable de manière rationnelle. Ça reste quand même de ça, c'est un peu l'avantage de l'art aussi, de le fameux qu'a voulu dire l'auteur. Des fois, l'auteur a simplement voulu dire que ça sonnait bien. Non. Je pense que dans ma manière d'écrire, j'aime bien les contrastes. J'aime bien utiliser justement cette manière d'écrire qui est propre au rap contemporain, ou en tout cas qui a évolué lentement vers quelque chose comme ça. C'est-à-dire quand on regarde l'histoire rapide du rap dans les années 90, on avait des chansons thématiques où les artistes développaient une thématique, puis petit à petit en fait c'est le freestyle qui a pris le dessus sur toute autre forme de d'expression. Et maintenant on a cette manière d'écrire où finalement on a des unités de sens qui sont très courtes.
C'est
la fameuse punchline, c'est-à-dire on a une ligne qui se suffit à elle-même.
Okay.
Elle peut être liée au reste, mais c'est pas obligé. Et dans cette unité très courte, ce qui fait qu'on va la remarquer souvent, c'est les juxtapositions d'images contraires. Et dans cette phrase, je sais dire l'amour, mais pas le nom des morts. Évidemment, il y a le jeu de sonorité. Mais pour moi, ce que ça évoque, c'est que d'un côté, y a une absence de pudeur très assumée dans l'expression d'un sentiment et une pudeur très forte sur la fin de la phrase. C'est-à-dire que à la fois, je peux dire je t'aime sans problème, mais je vais avoir la gorge qui se serre en pensant à quelqu'un qui est décédé.
Ok, donc hyper intime.
C'est-à-dire que la sensibilité a plusieurs visages et elle se loge pas forcément partout ou au même endroit chez tout le monde. En fait.
Oui, c'est mais ça. C'est intéressant parce que justement, c'est un truc qui existe dans tes textes, à la fois le côté hyper personnel et à la fois, il y a des moments, on le verra peut-être dans d'autres morceaux, où tu parles beaucoup plus de le rapport linguistique, mais le rapport des Français vis-à-vis des Occitans et donc le nom des morts. Les morts, ça peut être moi, mon père, machin, la personne que j'ai perdue, comme ça peut être un truc plus large. Donc, ok.
Ouais.
Et même question, tout juste après, tu dis Roro Mino Veizin Odé, donc Roro enfant, voisin Odé. C'est qui voisin Odé?
Alors déjà, je vais en profiter pour aussi rebondir sur la première partie, c'est que dans cette démarche d'aborder des choses plus personnelles, de manière assez inconsciente, j'en suis venu souvent à parler de moi enfant à la troisième personne.
Okay.
Et c'est là qu'il y a cette espèce d'avatar ou d'alter ego que j'ai appelé Roro. Et en fait, personne quasiment m'a appelé comme ça dans ma vie.
Ah, c'est toi qui te surnommes comme ça.
Et là, en général, mes potes m'appellent Roro tout court, mais j'ai quelques amis qui m'appellent Roro, mais c'est venu comme ça. Et au moment de faire l'album, j'ai réfléchi à ces choses-là aussi, un peu à quel, par exemple, quelle est ma marque sonore, quel est mon tampon récurrent sur tous les morceaux. Et j'en ai trouvé deux parce que je voulais pas chanter Rodine, genre, enfin, tu vois, et il y en a deux, il y a Roro Louro, qui du coup est une espèce de jeu de mots, qui est Roro le rocher. Okay. Dans le sens de, finalement, le moi petit garçon fragile est quand même quelque chose de solide. Et l'autre phrase qui revient dans tous mes morceaux, c'est sempre trop, qui veut dire toujours trop.
Oui.
C'est toujours en arrière-plan, mais ça y est toujours. Mmh. Et ça, pareil, je me suis dit, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, entre guillemets, dans mes relations personnelles, d'être un peu, justement, dans l'excès émotionnel, dans le... Et de quelque chose qui finalement était un défaut, j'en ai fait une sorte d'étendard.
En fait. Et c'est, ben c'est d'ailleurs
ça, ça revient souvent.
Jamais prou.
Mais pour revenir à l'histoire de du coup du voisin, et en fait quand je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 9 ou 10 ans, peut-être plus. Mais j'ai un voisin qui est mort d'une overdose dans sa voiture en fait, okay, en bas de chez moi. Et je le connaissais pas personnellement, si tu veux, c'était le fils de la voisine qui habitait l'immeuble à côté.
Ah, donc un jeune quand même.
Et je sais pas, ouais, ça m'a. C'est une image qui m'est revenue dans les choses que je cherchais à exprimer. Et je me suis rendu compte d'un truc marrant d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est à quel point on n'oublie rien. C'est-à-dire qu'on pense qu'on oublie les choses. Mais en fait, on les a juste rangés à un endroit où ils viennent pas nous perturber, mais en fait, je me rappelle de plein de trucs, quoi.
Et est-ce que c'était ta première expérience du décès dans ta vie ou pas?
Je crois pas, non, parce que mon grand-père est mort quand j'avais 6 ans. Mais ceci dit, il est mort en France, et moi j'habitais pas en France à ce moment-là. J'ai pas vraiment vécu l'enterrement, tout ça. J'ai un souvenir très flou de ce moment-là de ma vie. Mais peut-être que c'était effectivement la première expérience de la... Je saurais pas dire à quel
c'est
point...
C'est assez violent comme mort d'ailleurs. Enfin,
ouais, mais c'est surtout que c'était... j'ai ce souvenir de la voisine qui hurlait, puis enfin voilà, je crois que je suis descendu, je pense que je l'ai vu à un moment, le gars dans la bagnole, enfin tu vois, ouais. Et
oui, c'était très percutant comme image.
C'était percutant, ouais.
C'est voire même traumatisant. Tu étais enfant.
Oui.
Ouais.
Ouais, c'est carrément traumatisant. Enfin,
ouais.
C'est.
Ouais, mais je pense qu'on se souvient. Moi, j'étais très marquée aussi hein, par une de mes premières expériences de décès. Pourtant, je l'ai pas mal vécu. C'était une camarade de classe qui a eu la leucémie pendant 2 ans, et puis malheureusement, elle est décédée. Donc Mélina. Et en fait, je l'ai pas hyper mal vécu, mais je me souviens avoir eu ce truc qui m'est resté pendant 1000 ans, et encore aujourd'hui, de me dire ah, elle saura jamais la fin de Harry Potter, parce que moi, je faisais partie de la génération Harry Potter plein pot, et donc et encore aujourd'hui il y a des moments où je lis des histoires, ou quand je regarde Harry Potter, j'ai toujours une pensée où je me dis vas-y, je t'envoie la fin de l'histoire.
Ouais.
Mais c'était j'en ai pas, c'était pas horrible et pas traumatisant, mais par contre c'est vrai que c'est des moments qui sont existentiels, quoi, pour l'enfant, quoi. Est-ce que tu alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans ton son, on n'est pas obligé d'en parler si tu veux, c'est que tu dis enfant abusat devient adulte tourmentate, donc
ouais.
Enfant abusé devient adulte tourmenté. Est-ce que tu as envie de nous parler de cet abus-là, ou tu préfères qu'on change de morceau?
C'était une réflexion globale, c'est que dans tous les cas, quel que soit l'abus, parce que quand même pendant longtemps dans la société moderne, l'abus ne pouvait être que sexuel. On se rend compte quand même avec le temps qu'il y a d'autres formes d'abus, ça peut être des violences. Quand on est enfant, on peut être victime de violences qui sont pas forcément physiques aussi.
Oui. Puis même la question des violences physiques, hein, tous les gamins qui sont nés avant les années 2000, on se faisait gifler.
Ah, oui,
c'est
oui,
aujourd'hui,
non, c'est...
on dit que c'est plus, c'est
mais
du,
en
c'est
tout
de
cas,
l'abus,
ouais,
mais,
c'était
la violence banalisée, quoi.
C'était une sorte de, encore une fois, de phrase avec deux propositions. Là, c'est pas forcément des concepts contraires, mais c'est, je sais pas, je pense que j'ai écrit ça un peu comme un constat. À ce moment-là, quand j'ai créé ce morceau, j'ai aussi eu besoin, moi, de me dire, bon, dans ma vie en tant qu'adulte, quel adulte je suis, déjà, se poser la question de qui on est devenu, parce que souvent on devient des choses sans forcément s'en rendre compte. Et déjà, apprendre à se regarder en face, c'est pas évident. Et une fois qu'on a réussi à se regarder en face, là, l'étape d'après, c'est de se poser la question de est-ce qu'on a envie d'être ça? Est-ce que tout est fataliste, quoi? Ou est-ce qu'on a, à un moment donné aussi, la possibilité de choisir un autre chemin, et de se libérer de certaines choses? C'est un peu ce que le moment où je suis actuellement dans ma vie, de dire bon, ça je l'ai mis là par défaut, est-ce que je le garde? Ça, je pense qu'on se défait jamais vraiment de rien, on garde toujours ses bagages, mais la question c'est de savoir comment on les range.
C'est joli, on dirait c'est votre métier la poésie, monsieur. J'ai une question sur, avant de passer au prochain morceau, sur tes arrangements. Alors j'ai pas les mots parce que je suis pas musicienne,
ouais.
Mais comment dire, il y a des musiciens, j'ai l'impression que au niveau sonore et du mix peut-être, il y a la voix qui est hyper lisible et derrière il y a vraiment presque séparé toute la partie musicale. Et toi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grande harmonie entre ta voix et la musique. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que ta voix, c'est un instrument au milieu des autres instruments. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ça?
Je pense que ça dépend un peu des morceaux, mais c'est une question de volonté et de mixage et d'arrangement, effectivement. Mais comme ça fait un moment que je fais ce métier aussi, et que à chaque fois que j'ai fait un projet, j'ai toujours été partie prenante de la partie mixage.
Okay.
J'ai aussi appris beaucoup, et du coup ça rentre en considération dans comment je compose. Alors là, ce morceau là par exemple, c'est un cas particulier parce que l'instru a été produite par Denis, qui est un ami d'enfance à moi. Donc on se connaît depuis le lycée et on fait de la musique ensemble depuis le lycée. Donc lui, il a vraiment fait toute la partie instrumentale. Mais là où c'est intéressant, c'est que comme on se connaît bien, je pense qu'assez intuitivement, il a aussi laissé de la place pour les voix, parce qu'en fait, il n'y a pas que la voix principale. Surtout sur les morceaux plus lents comme ça, il y a une partition d'accompagnement qui est très fournie. Ce morceau là si on enlève la voix principale, il se passe beaucoup de choses encore derrière.
Ouais, ça s'entend.
Et ça a été d'ailleurs un peu le défi pour moi, parce que je l'ai enregistré dans deux langues. Initialement je l'ai écrit en occitan, ce morceau, et donc toutes les parties qui sont derrière sont souvent des répétitions d'un mot qui vient de passer ou qui va arriver juste après, un contre-chant qui reprend aussi partiellement des mots. Et au début, quand je l'ai adapté en catalan, j'avais pas forcément anticipé. Je me suis dit, je vais réenregistrer la voix principale. Et en fait, non, j'ai tout réenregistré. Ça a été assez rigolo quand j'en suis arrivé justement à toutes ces parties qui sont derrière, qu'on n'entend pas forcément, ou qu'on entend quand on écoute au casque, qu'on a réussi à prendre de la distance avec la voix principale. Mais je pense que de toute façon, je résonne aussi beaucoup en termes de fréquence. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui intervient au mix, et souvent t'as des problèmes d'équilibre quand t'arrives au mix si ton morceau est pas pensé justement en termes de fréquence. C'est que tu peux pas. On a une bande passante, voilà, ce que l'oreille humaine entend. Et à l'intérieur de ce que l'oreille humaine entend, quand tu fais de la musique ou du son en général, quel que soit le contenu, tes informations sonores remplissent certaines fréquences.
Et oui.
Et quand tu composes, et d'ailleurs tu vois que par exemple les compositeurs classiques avaient déjà conscience de ça, chaque instrument est à une hauteur différente. Et t'as des instruments qui cohabitent sur certaines fréquences, mais pour que qu'un morceau soit lisible, on va dire, que vraiment tu puisses profiter de toutes les informations, il faut pas surcharger les différents étages.
Et oui,
gros.
Bien sûr, sinon ça sent que c'est embouteillage. Hein.
Voilà. Et donc du coup, peut-être que c'est ça que t'as perçu en écoutant les morceaux.
Moi, en tout cas, je trouve que c'est très réussi. Voilà. Et ça donne un côté. C'est ça que j'aime bien aussi dans ta musique, c'est que à la fois, c'est pas pour rien que j'ai commencé en disant est-ce que c'est bien du rap ce que tu fais, parce qu'il y a un côté très moderne, tout ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est le travail de ta voix ou de tes voix, en fait, c'est penser qu'avec, comme s'il y avait des chœurs, on retrouve un peu un truc un peu spirituel, c'est un peu trop comme terme, mais tu vois, ce truc d'avoir des, un peu des voix d'anges, on a l'impression que tu chantes avec toutes tes, tous tes anges.
Il y a beaucoup, de morceaux, quasiment dans tous les morceaux, j'ai fait des harmonies déjà, c'est-à-dire qu'il y a certains passages où je double, triple, quadruple les voix. Ça vient de mon bagage de chanteur traditionnel, entre guillemets, d'avoir passé 20 ans avec le Quart de la Plane. J'ai fait de la polyphonie en occitan, avant toute chose. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Et donc, effectivement, c'est un outil qui reste dans ma trousse de manière permanente. Et
ça s'entend. Et voilà. C'est très bon. Il est 3h43. On a jusqu'à 16h pour faire cette émission.
On réécouterait pas un morceau.
Ah ouais. Lequel tu veux qu'on écoute? On a enfin.
Du coup,
mystérie.
On a trouvé MSR.
MRS. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on en écoute un ou deux? Moi, je dirais que ça serait peut-être bien d'en écouter deux. Et alors, je mettrais. Alors, Infa Mystère, il est déjà sorti. J'ai envie de regarder plutôt vers le MRS aussi. MRS et Infa Mystère, ils sont déjà sortis, mes chers amis auditeurs. On a fait des clips qui sont vraiment cool, donc allez les voir sur YouTube.
Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, nos auditeurs, justement, pour te réécouter ?
Principalement sur Insta. Sur Insta, mon nom c'est Rodine, R-O-D-I-I-N, il y a deux I, vous me trouverez de suite. Et de là, vous trouverez mon Linktree et tout le reste sur YouTube aussi. Donc Infa Mystère et MRS sont deux clips qu'on a sortis déjà. MRS, on l'a tourné à Marseille et c'est un hymne à la ville. J'aimerais passer du temps à parler de ce morceau là étant donné qu'on est à Radio Galère, mais j'ai envie de parler de la suite. Et Infa Mystère, on l'a tourné à Lanzarote. C'est un autre délire, mais je suis assez fier de ce clip là. Ah non, je mens. On a tourné une partie à Marseille. La partie sous l'eau, on l'a tournée au Frioul.
Oh waouh.
Voilà. Parce que Lanzarote, sous l'eau, c'est un autre délire. Quand on a vu les vagues, j'ai dit non, on va faire à la maison. Et donc, j'aimerais bien qu'on écoute Jamaï Proum, qui sort le 9 mai. C'est donc la semaine prochaine.
Ouais.
Et Si aussi, qui sortira fin mai ou début juin, je pense.
Si aussi, alors c'est bien si, ouais. Plus loin la lettre si. O, ouais. Plus loin si. C'est ouais. Pas, essayez pas d'essayer de faire les forceurs avec AU, deux S.
Non, c'est... Donc Si aussi, c'est mon premier single en catalan, même okay. Si Nin était en catalan, mais en fait, Nin, j'ai sorti les deux versions en même temps. Et donc Si aussi, c'est le premier morceau que j'ai écrit directement en catalan. Si aussi, ça veut dire... quoi qu'il en coûte, oui, quoi, c'est un oui absolu, quoi
qu'il arrive. Ouais.
Et Jamaï Proum, ça veut dire jamais assez. Et Jamaï Proum, encore une fois, c'est une production. L'instru a été produite par Denis, donc encore un morceau marseillais. Et je trouve qu'il a une saveur marseillaise même dans la musique, Jamaï Proum. Et Si aussi, c'est moi qui l'ai produit. Jamaï Proum a été enregistré à Majorque, mixé à Marseille et masterisé à New York. Et Si aussi a été enregistré à Montpellier, mixé à Marseille et masterisé à New York.
Il y a tellement de terres aérées tous ces morceaux.
Voilà.
Et donc c'est parti pour Jamaï Proum et puis on va enchaîner directement avec Si aussi.
D'abord MRS et...
Non, justement Jamaï Proum et
ouais,
Si
ouais,
aussi.
Ouais.
D'accord, ok.
Parce que justement les deux autres sont déjà sortis.
Ils sont déjà sortis dispo sur toutes les plateformes.
Eh bien parfait. Eh ben...
Allez, Jamaï Proum.
Bonne écoute. Sabi pa viure se muna bunde Amusami, eu n-ai cea mai pur
mi pena, mi gioia, cerchi tu ne naurame. Tambe, hai tanta fada luga, per cuscare un giusto in anense. Nina vuoi li nuiri ta voglia, vuoi li ballame tu se vesti me. Io sabi pa, vi uramita. Nentui tu giù mu qua buien desbundo. Un pitre con crema mu l'intimità. Amuare in passeggia l'umunde.
C'était Rodine, Jamai Prone et Si aussi.
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Kixa. Erodine est toujours avec nous. On a écouté Jama et Prune et la question que j'aimerais te poser sur ce morceau, j'ai remarqué que, alors je sais plus dans lequel, mais je crois qu'il y a plusieurs morceaux où tu nous parles des îles volantes. Et notamment, là, c'est en fin de morceau, tu dis Un giorno sarei sus les illas volantas, ma cara Arpada per Acanta. Donc un jour, je serai sur les îles volantes, mon visage griffé par Acanthe. Donc grâce à toi, j'ai appris, je suis allée chercher, j'ai découvert la plante Acanthe. Et donc je voudrais que tu m'expliques.
Et la muse aussi.
Ah voilà.
C'est une muse grecque, Acanthe, qui griffe le visage d'Apollon.
Ok, parce que c'était ma question justement de dire, je veux savoir c'est quoi les îles volantes chez Rodine et du coup Acanthe que tu as.
Ouais, les îles volantes, c'est un mythe récurrent. Il y a une partie de ce que j'écris, j'ai une sorte de boîte à outils ou je sais pas, de boîte de besace qui est. J'aime beaucoup les mythes grecs parce qu'ils sont généralement partagés par toutes les cultures méditerranéennes. Et puis parce qu'ils ont évolué de manière intéressante, justement, Gulliver, par exemple, vient de là, et de Gulliver, on arrive à Miyazaki. Enfin, t'as un voyage comme ça de ces histoires qui est intéressant.
Et puis d'ailleurs, il y a une bonne partie des mythes païens du monde entier, mais ancestraux, qui parlent justement du monde comme une île volante, comme un œuf, etc.
Je pense que d'une manière générale, j'ai un attrait fort pour les îles, principalement les îles méditerranéennes. Je ne sais pas pourquoi les îles d'océan m'attirent moins, même si elles m'attirent quand même. Mais il y a un truc, je sais pas, j'ai une sorte de comment dire, de mythe derrière moi du voyageur, de Ulysse, Pythéas. Alors Pythéas, pour le coup, c'est pas un mythe, mais disons que Ulysse est forcément né aussi d'une culture comme ça d'exploration maritime. Et je sais pas, j'ai l'impression, enfin, de par peut-être mon histoire personnelle aussi, d'avoir grandi au Maroc, en Égypte et au Liban avant de venir ici, j'ai l'impression que mon pays, c'est toutes ces îles quelque part, tu vois, c'est...
Ben, j'ai l'impression que la Méditerranée, même si c'est très grand, il y a un peu un truc de... C'est notre petite mer, il y a quelque chose de ça, qui relève de ça dans la culture méditerranéenne. Là où les personnes que j'ai rencontrées qui sont plutôt du versant océanique, l'océan leur appartient pas. C'est-à-dire que c'est tellement immense qu'il y a moins
un côté
d'approprier.
C'est historique aussi, c'est qu'il y a eu des centaines d'années d'échanges où finalement, on voit comment c'est construit. L'Empire romain, il était construit autour de la mer. Mmh. Il était pas fin. Il y a eu des velléités d'expansion au nord, mais finalement, sur cette base-là et sur ce qui en a commencé à évoluer après avec l'Empire byzantin, avec l'Empire ottoman, enfin, il y a une conception quand même de tous ces pays regardent vers l'intérieur, en fait. Et je pense que c'est un phénomène très récent. Le fait qu'en France, on regarde vers le nord.
Oui, c'est vrai.
Le fait déjà qu'on soit français, quand on connaît l'histoire, c'est récent.
Le roman national, c'est les années 40.
Dans notre histoire, on va dire occitane, mais... Mais oui, les Occitans regardaient vers la mer aussi. Si tu regardes, enfin, ils avaient des échanges avec les Andalous, ils avaient des échanges
bien
avec
sûr,
les Napolitains.
J'ai appris grâce à une copine qui est historienne, qui elle travaille sur l'Éthiopie médiévale et qui est italienne d'ailleurs, qui m'avait expliqué que en fait il y a pas mal d'écrits en occitan, simplement parce que c'est une toute petite communauté, les archivistes, les historiens, les gens qui grattent, et que du coup il y a eu un moment donné où il y avait pas mal de Provençaux qui se sont illustrés dans ces disciplines. Et donc, elle, pour pouvoir travailler sur l'Éthiopie médiévale aujourd'hui, elle fait traduire des textes qui viennent du Provençal. Donc, effectivement, le rayonnement de la culture occitane, ça a été quelque chose, quoi.
Mais du coup, ouais, pour revenir aux îles volantes, je pense que c'est une projection de toutes ces îles. Par exemple, un de mes grands mystères, enfin, ou des les endroits où j'ai envie d'aller réellement. J'ai envie d'aller à Ithaca. Ça a l'air d'être une galère, j'ai regardé. Il faut prendre je sais pas combien d'avions, des bus, un bateau, enfin bref. Et à Malte aussi, je sais pas pourquoi Malte ça... Enfin, je sais pourquoi Malte ça m'attire. Parce que ça... D'une certaine façon, de manière très concrète, Malte, ça résume mon identité aussi. Linguistiquement, d'avoir une langue qui est entre le sicilien et l'arabe, c'est un peu mon histoire à moi.
Parce que c'est vrai qu'on a parlé du fait que tu parlais catalan et occitan et qu'évidemment que c'était texte, mais en fait tu parles beaucoup plus de langues, tu parles aussi l'arabe, tu parles aussi l'italien, et j'ai oublié la liste, mais effectivement on pourrait passer des heures à parler de ça. Alors, on a le temps pour écouter une dernière chanson, je peux aussi passer ce temps-là à te relancer sur des questions sur ci aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Tu voudrais qu'on passe une dernière chanson peut-être?
On peut passer une dernière chanson. On peut mettre MRS pour le coup.
Allez, écoutons MRS, une chanson qui, je suis sûre, est à la gloire de Paris.
Exactement.
Comme son nom l'indique. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Rodine, d'avoir été parmi nous.
Avec plaisir.
Et tout de suite, MRS sur Radio Galère 88.4.
Bonne écoute.
Paris, c'est un ferré, c'est rien.
Vous êtes sur Radio Galère 88.4. C'était l'émission Kixa et là, vous venez d'écouter donc Rodine MRS. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine avec Dario Della Noce. Voilà. Bye bye.